Bonjour à tous. Les Gilets jaunes, une révolte populaire, une jacquerie 2.0. Après un week-end de mobilisation, retour sur une contestation politique, sociale et médiatique avec le grand historien de l'immigration et de la classe ouvrière Gérard Noiriel, qui publie cet automne une histoire populaire de la France chez Agone Édition. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, Naomi Kawase, une conscience écologique. Alors qu'à Radio France s'engage pour la planète à quelques jours de l'ouverture de la COP24, rendez-vous avec la cinéaste japonaise, réalisatrice des Lumineux vers la lumière ou encore Still the Water, des films projetés avec une quarantaine d'autres, courts et longs, dans le cadre d'une rétrospective que le Centre Pompidou et le Festival d'automne lui consacrent jusqu'au 6 janvier à Paris. Son nouveau film, Voyage à Yoshino, sort par ailleurs en salle mercredi. Naomi Kawase est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Une cinéaste intuitive qui a placé les origines, le temps long et notre lien avec la nature au cœur de ses films et de sa réflexion. On l'avait laissé à Cannes l'an passé avec Vers la lumière, prix du jury œcuménique, autour d'un homme qui perd la vue, une histoire d'amour et de regard. Parfois, lui disait-il, j'entends ton cœur qui se serre. Voir ou ne pas voir. On la retrouve aujourd'hui avec Vision, titre original de ce film qui sort en salle mercredi et filme le voyage de Jeanne au Japon à la recherche d'une plante médicinale rare, guidée par Tomo, un garde forestier, inspiré par Aki, vieille dame aveugle elle aussi, qui dit d'ailleurs à Jeanne quand elle se rencontre « Mes yeux se trouvent dans mon cœur, on se retrouve enfin. » Et bonjour à votre voix française, Miyako Slocombe. Naomi Kawase, vous dites souvent que vos visions à vous, vous les mettez dans vos films. Dans Voyage à Yoshino, vous nous ouvrez les portes de votre monde. Comment le raconter, ce monde? Comment le décrire?
Ce que je n'arrive pas à dire par des mots, je pense que je le mets en scène dans mon cinéma. Le langage de l'image, quand je l'ai compris, j'ai éprouvé une joie profonde. J'ai eu l'impression que ma vie en serait beaucoup plus riche.
Et ce monde, c'est un monde qui a existé, un monde aussi que la modernité a effacé, cette grande forêt dans laquelle vous nous emmenez. Mais c'est un monde qui pourrait bien aussi être celui de demain, un monde refuge pour nous.
La société qui nous entoure aujourd'hui est peut-être beaucoup plus confortable qu'elle ne l'était avant. Mais si ça se trouve dans notre cœur, peut-être qu'on a tendance à se comparer aux autres, peut-être qu'on est toujours un peu pressé par le temps. Dans ces situations-là, la forêt, elle nous permet de revenir vers d'où l'on vient.
Après deux films urbains, Vers la lumière et les délices de Tokyo, vous y retournez chez vous, une fois encore à Nara, cette belle région montagneuse et boisée au centre du Japon. On y voit des arbres, beaucoup d'arbres, l'arbre qui est au cœur de tout et qui est le poumon végétal de la forêt, le poumon aussi de la vie. Vous revenez plusieurs fois dans ce film sur ces grands arbres que vous filmez à la fois d'en haut par des vues panoramiques pour montrer leur gigantisme ou d'en bas avec le toucher, à travers le toucher de vos personnages, les branches aussi, les troncs, les vénules, on voit chaque trace de vie de l'arbre. Il signe L'Arbre Monde aux éditions du Cherche Midi. Le romancier américain Richard Powers vient de se voir attribuer, lui, le grand prix de littérature américaine. Et il nous dit pourquoi les arbres ne méritaient-ils pas toute notre considération. Je vous propose de l'écouter. Je pense que vous vous y retrouverez.
Il y a une merveilleuse phrase qui est attribuée au Bouddha. Il dit: un arbre donne de la nourriture, un abri, et de la substance et de l'ombre, et même à la personne qui le coupe. Cet aveuglement, cette aliénation que nous avons vis-à-vis ces créatures qui ont rendu la civilisation possible, qui ont rendu possible l'humanité telle que nous la connaissons, et c'est le sujet de cette bataille qui prend place dans ce livre entre ceux qui voudraient conserver les derniers vestiges des forêts primaires. La nécessité de considérer les arbres comme faisant partie de notre propre histoire. À un moment, il y a un personnage dans le livre qui dit: on ne dit pas « ne coupez pas les arbres ». On dit: ne pensez pas qu'ils vous appartiennent. Ne pensez pas que ces créatures ont été placées sur Terre pour être votre ressource. Coupez-les, abattez-les comme une, véritablement comme un don. Personne ne voudrait absolument gâcher tous les dons.
Est-ce que vous compareriez aussi les arbres à ce don, un don qui nous a été donné à nous les hommes?
Par exemple, quand j'ai une souffrance dans mon cœur que je ne peux pas exprimer, je me rends dans la forêt. Je touche les arbres, je me mets sous ces branches, et quand je sens le vent, et je sens donc au bout de ces branches les feuilles de ces arbres, et quand je regarde ça, j'ai l'impression que les arbres me consolent. Je sens quelque chose de beaucoup plus grand, ils ont un regard beaucoup plus vaste que notre humanité, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que nous, notre intérieur est minuscule comparé à eux. Mais nous, nous avons le langage. Et nous avons acquis la civilisation. Et donc, l'existence même de ces arbres, on peut la faire disparaître pour nous rendre notre société plus agréable, plus confortable. Parce que voilà, nous nous sommes procurés cette société plus confortable. Il faut une coexistence
en fait,
il faut un rapport plus équilibré, c'est mon opinion.
Il faut un monde où l'homme cohabiterait avec la nature. Or, on vit encore dans un monde où l'homme ne cesse de vouloir la dominer, cette nature, l'extirper presque de son origine. Quand cessera-t-on d'opposer la nature et nos cultures ?
Il faut peut-être tout détruire pour se rendre compte de ça. Ça m'arrive de penser ça, oui.
Mais
de manière progressive, nous sommes en train de nous étrangler nous-mêmes, de perdre ce monde d'une grande beauté. Moi, je vis dans un pays où il y a particulièrement beaucoup de catastrophes naturelles, des séismes, des tsunamis. Mais en continuant à vivre là, il ne s'agit pas de contrôler cette nature, mais coexister. C'est quelque chose que les Japonais ont fait depuis longtemps, depuis le passé. Ce qu'on a appris autrefois, certaines personnes, même si elles ne sont pas nombreuses, se rendent compte qu'il est nécessaire de transmettre ces choses-là.
Filmer la forêt, celle que vous montrez, notamment dans Vision, votre nouveau film, Naomi Kawase. Je vous propose d'écouter les mots d'une cinéaste française. Elle s'appelle Claire Simon. Elle a réalisé en 2016 Le bois dont les rêves sont faits. C'était en région parisienne. Écoutez.
Les grandes métropoles ont juste à côté une forêt. C'est le poumon et c'est aussi le lieu du rêve, le lieu de... Voilà, je trouve ça très intéressant que plus les villes deviennent grandes, plus elles ont un goût du sauvage, de la forêt archaïque. Et c'était surtout ça que je trouvais très intéressant à travailler, quoi, cette espèce de fiction, quoi.
Là, c'est un regard français. Claire Simon parle de la forêt comme d'un lieu de fiction, un lieu d'imagination. La particularité de votre cinéma, et peut-être est-ce aussi une particularité de tout le cinéma japonais, c'est une manière de filmer la nature extrêmement esthétique, mais aussi très sensorielle. Pour vous, la nature est d'abord le lieu de toutes les sensations, le lieu qui éveille les sens.
J'ai donc grandi et vécu à Nara, qui est un lieu où il n'y a pas de mer. C'est peut-être aussi pour ça que je vois la forêt de cette manière. Là où il y a la mer, quand on habite près de la mer, c'est autre chose. Mais moi, c'est dans la forêt que je vois les dieux. Moi, j'ai vis un Nara où les hommes jusqu'ici ont vu les dieux dans la forêt. Et donc, j'ai toujours la sensation que ces grandes existences, ces dieux veillent sur nous, près de nous, dans ces forêts.
Mais qu'il leur faut un silence pour s'exprimer, le silence de la forêt.
Oui, comme la nature ne parle pas avec des mots, elle ne s'exprime pas avec des mots. Et donc, nous non plus, il est nécessaire de ne pas trop parler, mais plutôt de parler avec son cœur.
À propos de cœur, l'amour comme le mouvement des vagues ne s'arrête jamais, dit Jeanne dans le film Voyage à Yoshino. Le temps non plus lui ne s'arrête jamais, comme l'amour, il passe. Comment filmer le passage du temps sur nos vies, sur notre environnement?
C'est un thème, oui, très important chez moi, effectivement, le passage du temps au cinéma. Dans ma vie, j'ai souvent envie d'arrêter le temps. Mais personne ne peut faire ça, évidemment. L'idée du temps, finalement, est-ce que le temps existe?
Parce
que nous vivons tous dans la même temporalité, mais certaines personnes ont l'impression que ce temps est très long, tandis que d'autres trouvent ce temps très court.
Et si ça se trouve,
il y a des âmes qui traversent le temps pour retourner dans le passé. Et dans le voyage à Yoshino aussi, Jeanne se demande si elle existe vraiment là maintenant ou qu'elle appartient au passé. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait plus quand elle se trouve dans cette forêt. Et donc cette sensation du temps, lorsqu'on la perd, on accède à l'infini et à l'éternité. Enfin, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans mon cinéma.
Et ces souvenirs, d'ailleurs, sont au présent à Jeanne, votre personnage. Pourquoi vous souhaitez parfois arrêter le temps ou le suspendre?
La mémoire est éternelle, n'est-ce pas? Tant qu'on continue à penser à un souvenir, il reste toujours en nous. Et le cinéma, il enregistre cette mémoire et il l'enferme. Il est capable de l'enfermer, c'est ce que je me dis.
Et
nous n'acquérons pas une vie éternelle, nos vies finissent par se terminer un jour, mais ce qu'on a ressenti, j'essaie de l'enfermer dans mon cinéma et de le réutiliser. Ça, c'est quelque chose qui est possible, que je peux faire. Qu'est-ce que l'humanité, les générations futures, de quoi elles ont besoin? Nos enfants, notre descendance, de quoi ont-ils besoin? C'est ce que j'essaie de continuer à découvrir.
Ne rien laisser mourir, ni personne, c'est aussi ça le sens du cinéma pour vous ?
Oui, en effet. L'éternité ? Si le cinéma reste pour l'éternité, oui, on peut parler d'idées d'éternel, oui.
Depuis vos débuts, Naomi Kawase, vous êtes à la recherche de votre passé. Ce retour régulier dans votre enfance, est-ce qu'il est une nécessité pour vous ?
Le passé n'était pas forcément quelque chose d'heureux pour moi. Je n'avais pas de parents. Il me manquait quelque chose dans ma famille. Et quand je repensais à ça, j'avais envie, à travers le cinéma, de le recommencer. Je me suis dit que si c'est à travers le cinéma, je peux recommencer ce passé. Une vie qui a été négative, le cinéma peut la changer et la rendre plus positive. Dans ce sens-là, à côté de ma vie, en parallèle de ma vie, c'est comme s'il y avait deux roues côte à côte qui s'enrichissent mutuellement. Enfin, c'est ce que j'essaie d'obtenir.
On va écouter un extrait de Voyage à Yoshino sur cette idée de la quête.
Mais je ne sais pas si on peut toucher une vision. Je ne sais pas quelle forme ça a. Quelle matière elle est faite, je ne sais pas. Elle doit bouger, j'imagine, elle doit être souple. Je l'imagine souple. Je sais pas.
Vous pensez pas que Tomo, il est calme, hein, comme la montagne ?
Mais dans la nature, on a envie de se taire. On a envie d'être avec. Tout le monde, il est heureux, je crois. Peut-être qu'il ne sait pas pourquoi. Il a faim d'autre chose. Et il ne sait pas quoi. Il est venu ici parce qu'il était fatigué. Il sait pas, il cherche.
Naomi Kawase, Jeanne, est une scientifique qui cherche la plante légendaire Vision, ainsi s'appelle-t-elle dans le film Tomo, le bûcheron, l'homme de la forêt aussi, mais il ne sait pas pourquoi il est là, il cherche, c'est ce qu'elle évoque à l'instant dans cet extrait Tomo, il ne sait pas, il cherche. Et vous, que cherchez-vous ?
Qu'est-ce que je cherche ? Je me le demande. Un monde, le monde d'après, un monde qui serait meilleur. Sachant qu'il manque quelque chose, donc peut-être qu'un voyage à la recherche de ce qu'il manque. Mais si je trouve ce manque et que j'arrive à remplir ce qui manquait, peut-être que je n'aurai plus besoin de faire des films.
C'est-à-dire que pour trouver ce monde d'après, vous pensez qu'on a besoin de savoir aussi d'où l'on vient ?
Retourner à ses origines, savoir d'où l'on vient, c'est un thème récurrent dans mon cinéma. Connaître son passé, ça permet aussi de construire son futur.
Après 20 ans de cinéma, une filmographie qui tient à la fois du journal intime, de l'autobiographie, entre documentaire et fiction, entre réalisme et poésie aussi, Naomi Kawase, de Suzako à Étreinte, en passant par Escargot, à la forêt de Mogari, Naissance et maternité et beaucoup d'autres. Après 20 ans de cinéma, donc, est-ce que vous avez le sentiment que vous approchez au bout de votre quête ?
Ah non, je ne m'en approche pas du tout encore. Et peut-être que je me sens de plus en plus perdue en fait. Mais quand je découvre quelque chose, est-ce que quand il s'agit de se demander à droite ou à gauche, oui ou non, par exemple, si on est
100
et qu'il faut choisir 51 ou 49, peut-être que maintenant je suis capable de choisir plutôt 51 que 49.
Et ce chemin déjà parcouru, qu'est-ce qu'il vous a appris? Quelle philosophie de vie? Ma
grande découverte, c'est que entre ce que je ressens et moi, lorsque je fais des films, je me vois en fait objectivement.
Avant de faire des films,
j'étais tout le temps subjective et c'était très fatigant. Mais depuis que j'ai commencé à faire des films, j'ai réussi à me voir de loin, en fait, à porter un regard sur moi, comme s'il y avait deux moi tout d'un coup. C'est une grande découverte que j'ai faite. Et quand j'ai acquis cette sensation, tout d'un coup, le fait de créer des films est devenu très amusant.
Beaucoup de vos films procèdent d'un retour aux sources, d'une histoire familiale aussi que vous racontez, cette quête de père. Vous avez été adoptée et recueillie notamment par votre grand-tante à la fin de votre film « Ma seule famille », sorti en 89. Il y a un petit carton sur lequel on peut lire « Avec la présence de la caméra entre nous, le rapport à ma grand-tante a changé ». Il a changé dans quel sens? Est-ce qu'il vous a séparé ou est-ce qu'il vous a rapproché? Et finalement, avec vos acteurs aussi, quel type de lien s'instaure entre celui qui filme et celui qui est filmé?
Tout d'abord, concernant ma relation avec ma grande-tante,
Quand
j'étais subjective et qu'il n'y avait pas de caméra, j'ai l'impression qu'on ne faisait que se disputer ou qu'il y avait des moments de silence absolu et c'était très dur. Mais avec la caméra, des choses que d'habitude je n'arrivais jamais à dire, j'arrivais soudain à les lui dire. Et du coup, les images que j'ai obtenues en faisant des œuvres, je les ai regardées de nouveau avec elle et j'ai pu ressentir de nouvelles choses. Et j'ai pu établir une nouvelle relation avec elle. Et donc c'est ça, tout à l'heure quand je parlais d'objectivité, de subjectivité, de deux mois. Et par rapport aux acteurs, ma relation avec les acteurs,
donc
ce sont les acteurs vont interpréter ce que je ressens, donc il faut qu'on soit vraiment ensemble, que ce n'est pas quelque chose seulement en surface, mais de l'intérieur, c'est comme s'il m'assimilait. Du coup, c'est une relation qui prend du temps à être construite, hein, qu'il faut prendre le temps. Le lieu aussi a son importance. Il faut que l'acteur établisse un lien avec le lieu dans lequel il se trouve.
C'est comme ça que vous avez procédé avec Juliette Binoche, parce que dans ce film, Jeanne, la scientifique, la chercheuse qui se rend au Japon, au cœur donc du voyage à Yoshino, c'est Juliette Binoche, actrice française, actrice reconnue internationalement. Et c'est rare dans vos films que des acteurs de cette stature internationale apparaissent, soit les acteurs principaux du film. Comment vous l'avez fait entrer dans votre univers, elle, la française?
Lors du festival de Cannes l'an dernier, par hasard, on m'a offert un cadeau formidable qui est de rencontrer Juliette Binoche. J'ai pu discuter avec elle et en fait, trois mois plus tard, elle est venue dans la forêt de Nara. Voilà, c'était presque miraculeux, une rencontre miraculeuse. Et tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, lorsqu'elle murmure, ce qu'elle dit, en fait, ce n'était pas dans le scénario. C'est elle-même, à travers ce temps qui a passé, elle est devenue Jeanne, et donc ce sont des mots qui sont sortis d'elle-même. Et de cette façon, elle s'est acclimatée au lieu, c'est quelque chose qui ce sont des mots qui sont sortis d'elle-même, qui ont grandi en elle. Voilà, on a partagé ce temps-là ensemble.
Il y a une rétrospective de l'ensemble de vos films en ce moment, Naomi Kawase, au Centre Pompidou depuis vendredi et à voir jusqu'au 6 janvier dans le cadre du Festival d'automne, projection de vos 45 courts ou longs métrages et une exposition qui souligne vos correspondances avec certains cinéastes, dont l'Espagnol Isaki Lacuesta. Aujourd'hui, on évoquait Juliette Binoche, qui tourne d'ailleurs en ce moment à Paris avec Correida et Catherine Deneuve en partenaire devant la caméra. Quel est le cinéaste avec lequel vous sentez le plus d'affinité, de correspondance?
Au niveau de l'environnement, je me sens très proche de Correida. Et donc, dès l'époque où de Suzaku et lui de son film Maboroshi, on a attiré aussi l'intérêt du public français aussi vers la même époque. Donc lui, il traitait des problèmes familiaux dans son cinéma. Et dans cette rétrospective, cette exposition à Beaubourg, on s'est échangé des lettres, mais à travers du cinéma. On s'est échangé des images, une correspondance en images en fait, avec Correida qui est présentée à Beaubourg. C'est la même chose que ce que j'ai fait avec Isaki. Donc à travers des films en 8 mm, nous avons correspondu. Donc ce sont des films vraiment très précieux, je pense, de notre correspondance.
Merci beaucoup à vous, Naomi Kawase. Et merci à vous, Miyako Slocum, pour votre traduction. Merci.
Merci.